Bon, je ferme la lunette. J'ai déjà vu sur une conférence il y a quelques années à Racine des Chemins. Il est pasteur dans la région parisienne de Gennevilliers. Il travaille en pleine famille. C'est la personne de toute façon. Il est plus bien, il a été journaliste. Il va donc nous parler ce soir de la liberté et de la tolérance en se demandant si la France ne va pas en arrière. Bon, par ailleurs, il a été interviewé cet après-midi par RTS. Je pense que vous pourrez l'entendre au matinal de demain matin assez brièvement et qu'il y aura une émission plus longue probablement la semaine prochaine. On est plus gênant que Stéphane se présenter, c'est pas en charge.
Merci. Donc oui, j'habite à Lille Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, juste à côté de la ville de Saint-Denis. Et donc je suis pasteur à la mission populaire à Gennevilliers, en train de monter un nouveau lieu de la mission populaire. Les lieux de la mission populaire, c'est des lieux qui sont en même temps des paroisses protestantes, et puis des gens de quartier, des centres sociaux, ici dans la. Dans l'air de Vraine, il y a une fraternité qui s'est remontée récemment, l'an dernier, à Grand Charmont, hein, à Grand Charmont. Mon intervention, elle va à la fois se nourrir de mon travail intellectuel, et aussi de mon expérience aussi de terrain, dans des quartiers qui sont des quartiers très mélangés, qui sont des quartiers où il y a beaucoup de vagues d'immigration tout au long de leur histoire, avec une forte présence de populations d'origine maghrébine, populations de gens de religion musulmane. Mon expérience, c'est aussi, mon âge, j'ai 45 ans. J'étais adolescent dans les années 80, à une époque où le thème de la tolérance n'avait pas bonne presse, mais pas comme pas dans la situation actuelle, dans une situation où on avait laissé vivre des idées ou laissé faire des façons de faire différentes des siennes, et se dire que celle-là, on pouvait juste les tolérer, ce n'était pas vu comme suffisant. C'est une époque de grand enthousiasme. C'est mes premières grandes mobilisations, c'est une conférence sur le racisme, la marche sur l'égalité à la celle de 83, il y a celle de 84. Et je sais que vous vous souvenez du slogan de la marche sur l'égalité en 84, c'est des jeunes qui montaient en mobilette, notamment du sud de la France. Et leur slogan, c'était la France est comme une mobilette pour avancer, il faut du mélange. Donc voilà, une époque où la tolérance. Ça n'a pas bonne presse parce que c'est pas assez. On pense qu'il faut, beaucoup d'espérance sur le fait qu'on va pouvoir beaucoup plus se rencontrer, découvrir les uns les autres, une façon d'être beaucoup plus mélangé. Et 30 ans après, j'ai l'impression que c'est là que moi je vois ma carrière, que même être tolérant, ça devient difficile. Si on parle des caricatures, on vient de se souvenir qu'il y a un an, il y avait eu les attentats contre Charlie Hebdo, donc là, il n'y a pas eu de tolérance de ces dessins qui étaient insupportables pour certains. Dans le rapport entre les religions, sans doute, beaucoup de musulmans ont le sentiment d'être de moins en moins tolérés en France. On commence à voir une partie de l'extrême droite qui a des discours sur la remigration, c'est-à-dire qu'ils imaginent que les personnes musulmanes ou d'origine maghrébine pourraient repartir dans leur pays, même s'ils ont grandi ici. Donc voilà cette espèce de marche arrière dont je parle dans le titre. Donc mon interrogation dans cette conférence, ça va être de se demander si paradoxalement, dans ce nouveau siècle, on ne va pas devoir faire appel à une forme un peu archaïque, qui était finalement la tolérance, à un moment tout au fond de notre histoire, qui est la sortie des guerres de religion, c'est-à-dire ressusciter cette première tolérance qui a permis de prendre un chemin vers à nouveau une société, à nouveau une société de rencontre. Hein, puisque c'est une proposition un peu paradoxale que j'essaie de défendre devant vous. Alors je vais faire en deux parties. Enfin, la partie qui est plutôt un constat sur la situation actuelle par rapport à la liberté d'expression. Et puis une deuxième partie plus sur des propositions sur comment redévelopper une tolérance et quelle forme de tolérance. Donc sur la liberté d'expression, il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Pourtant, elle est finalement assez bien posée dans le droit français et dans la façon de le gérer. Assis sur des principes relativement partagés. Un premier principe, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. Principe qu'on pourrait tous partager et qui se traduit assez directement dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, sur son article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme de bonne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Voilà, qu'on traduit plus communément par ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça se traduit aussi dans la liberté d'expression, tout simplement par le fameux je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous le dire. Alors, on a fait ça souvent à Voltaire, vous paraissez pas de Voltaire, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ça c'est voilà, les éléments de base sur la liberté. Je pense que il y a d'autres valeurs que nous chrétiens, on cherchera sans doute à ajouter, chez d'autres religions ajouteraient sans doute sans difficulté, qui sont le aimer vos ennemis, aime ton prochain comme toi-même, qu'on doit trouver dans l'Ancien Testament, si je ne me trompe pas. Voilà. Les deux ne sont finalement que des renversements positifs et plus exigeants de cette règle d'or que j'ai énoncée au début. Ne fais pas à toi-même, ne fais pas à l'autre que je ne voudrais pas qu'on fasse. Un positif, un gros prochain comme toi-même, c'est la dimension plus positive de cela. Donc c'est toute cette aune que je chapeau que la liberté d'expression est protégée. La liberté d'expression, pour autant, n'est pas une liberté sans limite, des limites légales, dans le cas où cela devient la liberté d'expression est une incitation à la violence et à la discrimination. Dans ce cas-là, c'est une limite qui est posée à la liberté d'expression. Le discours raciste est considéré en soi comme un discours produisant cet effet, le discours raciste est un discours qui, on pense, qui incite à la haine et à la discrimination. Et c'est pour cela qu'il faut se poser la loi. Et puis il y a les limitations liées à la négation des génocides. Il y a une limite sur l'injure, sur la diffamation. Et ce sont des limites parce qu'on considère que en soi, c'est des violences, mais aussi parce que ça provoque à la violence. Il faut faire la loi, par exemple, sur le racisme de 73, de 72, arrive, elle est produite. Justement, après une série de meurtres racistes dans le sud de la France, mais aussi à Paris, moi j'étais pasteur à Maison Verte, dans le 17e arrondissement, où j'ai eu la ce qu'on appelle la place Gélali, un jeune homme d'origine maghrébine qui avait été tué, et voilà, une enquête à l'époque, c'est dans un intellectuel comme Michel Foucault, avait mis en avant, ça arrivait après, des articles, c'est toute une série d'articles dans ce qui était parisien libéré à l'époque, ces articles, voilà, que les gens, que le Foucault, j'avais été l'idée qu'ils l'avaient considéré comme raciste, et voilà, la loi sur le racisme, elle arrive après cette série de morts en constatant que le discours raciste produit des violences. Donc, tant qu'on n'est pas dans ce registre du racisme, de la discrimination, de l'application à la violence, eh bien, la liberté d'expression est totale.
Alors évidemment, la limite n'est pas toujours évidente. Comment une caricature contre une figure religieuse peut être ressentie comme une violence? On l'a bien vu dans les débats ou les réactions intégrées sur les représentations du prophète Mahomet, mais aussi les réactions de chrétiens face à des représentations de Jésus. Je pense à, il y a un an et demi, une exposition d'un photographe, Serrano, qui avait représenté, par exemple, un crucifix dans un bol de d'urine. Ça avait provoqué des réactions violentes lors de ces expositions-là. Donc, voilà, des gens, alors que là, on est... donc le juge est amené à trancher, savoir si ce qu'on dépasse ou pas la limite. Et donc là, ce débat sur comment des gens reçoivent une œuvre, comment ils se sont bousculés par une œuvre, ils peuvent ressentir ça de manière violente parce qu'ils ont une proximité avec la figure de Jésus, la figure de Mahomet, et en même temps, on revient à quelque chose de très subjectif, et qui serait bien difficile, de souvent bien difficile de prendre en compte juridiquement. De la même manière, quand voilà, la fameuse caricature qui a provoqué l'affaire des caricatures de Bordanarc en France, où il y a une figure, un dessin du prophète avec une bombe. Est-ce que ça dit que l'islam est intrinsèquement terroriste? Est-ce que c'est seulement une critique de la doctrine, d'une figure religieuse, d'un groupe de personnes en raison de leur religion? Bon, ça, la justice a tranché en disant que ça ne se trompait, a tranché en disant que ça ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression profite aussi aux religieux. Les croyants et les pratiques religieuses bénéficient de la liberté d'opinion et de religion. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public ou établi par la loi. C'est la limite qu'on met à, de toute façon, à peu près à toutes les libertés qu'on doit construire. Et on peut rappeler aussi que, dans la loi de 1905, sur la séparation des religieux et des sacrés sur la liberté religieuse, c'est le titre compté, il y a même un paragraphe qui prévoit les manifestations extérieures du culte, c'est-à-dire que, il y a des actes cultuels qui peuvent se dérouler dans l'état public. C'est un des paragraphes de la loi de 1905. Donc, je vais rappeler, parce que je ne suis pas juriste, peut-être que vous l'avez déjà vu lors de conférences précédentes, il y a un droit français qui, cadre relativement bien toutes ces questions-là. Mais il me semble que dans la situation française, la loi ne suffit pas, c'est-à-dire que le fait qu'on ait une loi qui cadre relativement les choses ne fait pas que pour autant les choses se déroulent tranquillement et calmement. Par exemple, très globalement, les pratiques des croyants musulmans en France ne sont contraires ni aux lois, ni aux principes qui auraient pu éviter, ni aux valeurs de la République. De la même manière, la plupart du temps, les dessins sur les raisons de faire les deux ne sont pas considérés comme illégaux parce qu'ils sont amenés devant les tribunaux. Et pourtant, on voit bien tout le trouble que toutes ces questions amènent dans le débat public. Ça veut dire que la question ne se joue pas seulement sur le terrain de la loi, que la loi est certes notre règle, mais en même temps, ça ne suffit pas à régler notre façon de vivre en société, de vivre les choses d'une manière relativement sereine. Si c'était uniquement en termes légal ou illégal que ça se joue, ça serait finalement assez simple. Et sans doute, on peut penser que l'insupportable, bien que légal, est peut-être plus dur même à gérer que l'insupportable qu'on peut interdire. On voit que bien que légal, des expressions, des dessins sur la religion d'un côté, des expressions publiques des religions de l'autre, créent de l'émoi dans une partie de la population. je pense que voilà, beaucoup, les uns et d'autres, moi, vous, il y a bien des fois où on voit ces expressions-là et puis on se dit, ben quand même, ça me fait quelque chose, ça me secoue. Alors ça me peut me secouer parce que ça me semble véhiculer un message, des valeurs contraires à des choses auxquelles on tient, qui sont importantes pour nous. L'égalité homme-femme, la figure de Mahomet ou de Jésus, un certain souvenir de ce qu'était un quartier, une ville, et qu'on va transformer par les évolutions de la, les évolutions dans le temps, de la population, etc. Ça peut aussi nous secouer, nous toucher, parce que, on prend ces expressions-là comme des désaccords ou des différences qui seraient ruptures dans ce que, nous percevons sur la façon de faire société ensemble. Et c'est vrai qu'on entend, voilà, on entend beaucoup dans un discours qui se développe sur voilà, ça ne respecte pas les traditions et les modes de vie propres à la France. Il y a aussi une très grande difficulté de savoir sur on voit bien que ça règle de là par la loi, parce que on peut difficilement mettre sur le papier ce que c'est que les modes de vie et les traditions propres à la France, parce que par définition, d'abord en Bretagne, ici, c'est pas pareil, et forcément c'est mouvant, et donc on va demander aux tribunaux de gérer ces questions-là. Pourtant, tous ces choses qui nous trouvent ne dépassent ni la liberté d'expression, ni de la stime générale que j'ai pu évoquer au début. C'est de codifier des choses comme cela. Alors, je pense que cette situation, ça sera la deuxième partie de mon constat, c'est que dans le certain nombre de réalités de la France d'aujourd'hui qui exacerbent cette tension-là. La première réalité, c'est certaines choses dans ce qu'est aujourd'hui l'islam en France. Ça fait des raisons socio-économiques, par exemple, qui font que des jeunes ont une difficulté d'intégration économique, certains motifs d'intégration par la religion, par une religion visible. Donc ça en soi, je pense que c'est enfin un problème, je pense que tout groupe religieux est aussi un groupe social qui offre des solidarités, etc. Effectivement, c'est récupéré par des courants plus radicaux. Il y a, on pourra en discuter, sans doute un rapport de force dynamique au sein de l'islam qui sans doute favorise les courants conservateurs. C'est tout à Rami Benchar que je pourrai en parler la prochaine fois. Quand c'est un effet de génération qu'on prend souvent à l'envers, c'est un peu contre-intuitif, ce que disent beaucoup de sociologues, c'est que là, la première génération d'immigration se sentait à l'étranger, elle se sentait pas chez elle, et du coup, elle était rasée des murs, quoi. C'est-à-dire que on s'habillait en sortant, surtout habillé avec des petites stars, bien habillées, pour passer des villes, l'islam était caché, voilà, c'est l'époque de l'islam, des petits sales dans les cages, etc. La culture d'origine, c'est ce qui nous sert dans un espace collectif, mais un espace collectif privé, les associations, les secteurs familiales, donc celui de tous, c'est quasi clandestin. La génération suivante, elle est née ici, elle a grandi ici, elle est chez elle, elle se sent chez elle, donc elle n'a pas de raison de se cacher. Si vous êtes français, pourquoi vous cacheriez ce que vous êtes, une partie de vous-même, c'est votre choix. Et donc, voilà, ce que vous êtes bien, je reprends aussi mes parents, après tout, je suis français, je m'habille comme je veux, comme l'avocat français, je m'habille comme je veux. Et donc, ça a pu rendre plus visibles les choses qui ont un effet paradoxal, c'est-à-dire que on a un sentiment de se sentir chez soi, signe de non-intégration parce que les gens s'approprient plus leur religion, n'ont plus, ne l'attachent plus, etc. Et ça s'exprime, donc c'est là non plus dans l'espace collectif privé, comme les parents, mais dans l'espace collectif public, comme pourrait le faire n'importe quel Français. Bon, parce que c'est français. J'ai beaucoup travaillé avec un philosophe qui s'appelle Michael Walzer, qui s'est traité sur la tolérance. Et Michael Walzer écrit « Tout comportement d'inspiration culturelle minoritaire dans la sphère publique est susceptible de générer l'inquiétude au sein du groupe majoritaire. » Alors il y a une œuvre pour les protestants, c'est un sociologue qui travaille sur l'histoire de la laïcité et qui est fondée sur les cahiers de doléances juste avant la Révolution. Elle a travaillé là-dessus. Et chose auquel on ne s'attend sans doute pas, c'est que peu avant la Révolution française, il y a un lobby de tolérance pour les protestants. Et donc les protestants sortent de leur case à eux. Il y a des catholiques qui écrivent dans les édits dans les cahiers de doléances, et quand même, ces gens se promènent maintenant, on les voit les dimanches matin au temple, ils se cachent même plus pour y aller. C'est quand même honteux d'être à ce point-là visible dans l'espace public. Donc, on voit ce rapport, comment un comportement d'inspiration minoritaire culturelle qui apparaît dans l'espace public, c'est une inquiétude, c'est pas nouveau, et ça s'est arrangé. Il semble qu'aussi, deuxième élément qui aggrave la situation, c'est certaines réalités, le manque de cohésion de la société française. Pas une banalité, mais une crise économique et sociale qui fait qu'on cherche de plus en plus des boucs émissaires à nos difficultés. Le chômage, la délinquance, le malaise dans nos grands ensembles, etc. Je pense qu'il y a aussi sans doute un effet, je vois faire un effet, le roi élu, c'est-à-dire que les débats autour du SAM ont voulu avoir peut-être des choses qu'on ne voulait pas trop voir dans notre société française, c'est-à-dire qu'on a quand même une société qui est déjà très fragmentée. Aujourd'hui, par rapport à d'autres sociétés, on n'a pas tant de mélange que ça entre les classes sociales. Le clivage droite-gauche sépare quand même relativement les gens, en tout cas dans leurs relations amicales. Les personnes blanches ont peu d'amis, peu de noirs et d'arabes dans leur cercle amicaux en général. Quand on dit, les noirs et les arabes, ils sont tout le temps entre eux, les blancs, ils sont souvent aussi beaucoup entre eux. On parle beaucoup de l'école, de la républicaine comme projet, c'est aussi un développement d'écoles privées, d'écoles privées juives confessionnelles aussi de manière assez importante. Donc, la société française, elle est déjà relativement compartimentée. Et même de mes hypothèses aussi, c'est que le fait que la visibilité de l'islam nous renvoie à voir que c'est des choses qu'on n'aimerait pas voir, une histoire qu'on se raconte peut-être un peu sur cette société française, parce que c'est pas déjà une société fragmentée. Ceci dit, la France pouvait un peu se raconter cette histoire-là, parce que certes elle était relativement compartimentée, mais aussi relativement indifférente. C'est-à-dire, par exemple, un lecteur de Valeurs Actuelles, que ça passe dans un très à droite, ne lisait pas l'humanité, donc c'est un très à gauche, et inversement, un éditeur du Front National, un soutien du Front National, n'entendait pas les prédications de l'imam de Brest, qui est relativement conservateur, et l'imam de Brest n'avait pas accès au site des associations homosexuelles. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas dans un comportement que ce développement des médias et d'Internet fait sans doute des rencontres et des conflits qui n'avaient pas lieu jusque-là. Même l'exemple de Sarajevo, je pense que le Sarajevo des années 70, certes, il s'est fait interdire sur la tragique à Colombé, il avait des unes qui qui se sont dit bien tout contacté de ce fameux journal, et finalement, ça restait dans le cercle sans doute des lecteurs de Charlie Hebdo. Alors que là, la dernière une de Charlie Hebdo, bien avant qu'elle soit dans les coffres, elle était dans tous les médias, et tout le monde les voyait. Donc ça crée des rencontres, ça me profite, mais pas lieu jusque-là. D'autant que justement, ce ne sont pas vraiment des rencontres, pour faire des conflits, ce n'est pas vraiment des rencontres. On réagit sur des images, on réagit sur des bouts de phrases, on réagit sur des bouts de discours. Le nombre de polémiques qui démarrent sur une phrase sortie sans contexte est quand même quelque chose de devenu extrêmement courant. Cette rencontre que les gens ont, sans l'avoir forcément voulu, sans doute accroît cette conflictualité. Troisième élément de constat sur dans ces Français de prendre l'accentuer tout ça, c'est que la France est depuis longtemps à cheval entre deux modèles, qui est l'État-nation, la communauté homogène, et puis ce que Valois appelle la société d'immigration. Deux catégories qui disent l'État-nation d'un côté, la société d'immigration, c'est comme que Laurent se joue pour lui différemment. D'un côté, on a une France qui est un pays d'immigration, un ancien empire, un pays qui est un pays où par exemple, il y a un ecumenisme qui s'est développé entre les protestants et les catholiques. Donc, il y a potentiellement une curiosité à l'extérieur, potentiellement un discours positif sur l'enrichissement des richesses, et puis l'enrichissement des différences. Mais de l'autre aussi, une certaine histoire ancienne dont on ne saura pas trop si elle est réelle ou comment ça raconte ou quoi, qui est aussi en fait qui est réelle, c'est il y a eu en France un judaïsme chrétien important, qui est réel, c'est qu'il y a eu l'élimination du protestantisme au moment des guerres de religion, le fait de l'éradication des langues régionales. Donc, un rapport à la diversité qui est visiblement problématique, où sans doute on n'a jamais réussi à complètement éliminer cette diversité, mais en tout cas, en se construisant une image de pays homogène, et en ne pensant pas cette différence qu'on a souvent cherché à éliminer, que finalement on n'a jamais pensé. Et sans doute on acceptait la différence quand elle était exotique, qu'elle était une étrangeté, qu'elle était en marche, qu'elle était minoritaire, mais quand elle est interne, quand elle est en nous, c'est là peut-être qu'elle pose problème dans cette vision d'un corps de la nation homogène. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on n'a jamais réussi à réellement unifier ce pays, mais pour autant, on n'a pas vraiment pensé ces différences. On voudrait faire comme si ça n'existait pas, on voudrait faire comme si on ne les voyait pas, les rendre invisibles. Et c'est vrai qu'effectivement, quand une religion ou une minorité se rend plus visible, ben on a du mal à la penser. La France a toujours été à la fois un État-nation et un pays d'immigration, mais qui n'a jamais sans doute réussi à penser cet entre-deux. L'islam nous rend visible sa diversité, nous rend visible que notre diversité, notre difficulté à la gérer. Et on peut se demander si notre diversité vis-à-vis de l'islam ne tient pas ce que nous avons en face donc, de cette tension, qui est en notre sein depuis assez longtemps. Alors, Michel Zelzer, il y a un chapitre sur la France. Et il dit, la France a finalement toujours été un peu dans l'entre-deux. Et il dit, pendant un temps, a pu en faire une nation particulière, c'était, je cite, l'idée d'un peuple constitué en corps politique voué à la défense d'une cause. Donc, c'est un élément dans la discussion. Aujourd'hui, c'est la défense d'une cause qui serait quelque chose de surplombant par rapport à nos différences. Moi, je pense que c'est la cause de la liberté et l'égalité. On en touchera pas aussi, on a le trio, le trio républicain, mais donc, la question de l'égalité à la fois est profondément ancrée dans l'histoire française et en même temps permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes de fond. Donc voilà la situation qui me semble faire que tous ces éléments-là accroissent sans doute les tensions, accroissent le fait que la liberté d'expression est devenue quelque chose de relativement conflictuel. Et donc c'est par rapport à toutes ces situations-là que j'aimerais essayer de reprendre justement cette notion de tolérance. Cette notion de tolérance dont je disais au début qu'elle avait eu pendant elle avait pu avoir mauvaise presse et qu'elle se sentait qu'il fallait la réhabiliter. Alors, une définition et une précision, Michael Walzer définit les cinq niveaux de tolérance. Cinq niveaux de tolérance. Les niveaux les plus accueillants, celles auxquelles nous aimerions arriver, et sans doute auxquelles, quand je vais rappeler pourquoi mon livre est souhaitable d'arriver à ces niveaux de tolérance-là, le quatrième niveau pour lui, c'est le niveau de la curiosité. Face à l'autre, le respect, l'écoute, l'apprivoisement. Le cinquième niveau que Michael Walzer avance, c'est l'enthousiasme. L'autre comme forme de l'universel, c'est-à-dire comment l'universel n'existe pas de manière absolue, mais en permanence je peux découvrir dans l'autre, dans ce qu'il m'apporte, dans son histoire, dans son parcours, dans sa différence, une forme de l'universel qui me fait découvrir comme quelque chose avec un tableau d'artiste, avec les gens que je rencontre, mais l'universel en général. Il semble que ces niveaux-là sont ceux qui sont le plus en phase avec l'humanisme et avec ce à quoi nous invite Jésus dans les évangiles. Jésus bouscule les identités de son temps, bouscule tout ce qui pourrait être les séparations entre le pur et l'impur, les catégories nationales, voire la place qu'il donne à la femme syrophénicienne par exemple. Il y a cette phrase de Paul pour moi emblématique. Il n'y a plus en Christ ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Donc, on dit là que voilà, l'important, c'est la rencontre avec l'autre, ce que nous faisons ensemble, comment nous sommes heureux avec ce que Dieu nous a donné, comment faire une société qui permette de ne plus faire obstacle à cette rencontre. Mais voilà, dans la situation actuelle, les trois premiers niveaux, ce qui ont l'air d'être les trois niveaux précédents, vous parlez des niveaux 4 et 5 de la tolérance. Michael Walzer donne trois niveaux avant, ce sont les tolérances, vous allez voir, très basiques. Le premier niveau pour Michael Walzer de la tolérance, c'est la résignation. C'est l'acceptation résignée de la différence dans l'intention du maintien de la vie. En gros, c'est au sortir des guerres de religion, je trouve que l'autre est vraiment insupportable, si ça ne dépendait que de moi, il disparaîtrait, mais voilà, je préfère finalement la paix, parce que finalement, la guerre est une catastrophique, et ça ne va pas réussir à m'aligner l'autre, de toute façon, et donc, je vais bien le supporter. Le deuxième niveau, c'est ce qu'il appelle le niveau de l'indifférence. Il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire que j'arrive à trouver que c'est tout à fait insupportable, mais ça existe. Ne me demandez pas d'avoir un quelconque opinion positive là-dessus. Et puis le niveau 3, c'est ce qu'il appelle le niveau du stoïcisme. Les autres ont des droits, même s'ils sont de manière peu plaisante. Voilà. Les autres sont de manière peu plaisante et vont faire, c'est des citoyens, donc j'accepte qu'ils aient des droits. Alors c'est des niveaux de tolérance qui sont effectivement très peu généreux. Mais j'ai le sentiment que pour une grande partie de la population, il faut réussir à faire collectivement aux personnes le niveau 4 et 5 de la découverte, de la rencontre, etc. Là, il va falloir du temps, car une partie des accords, parce que les solutions aux problèmes évoqués précédemment dans ce qui fait l'attention vont prendre du temps. On a apporté sans doute un nouveau regard sur cette diversité, qui nous permet à la première nouvelle indifférence, c'est-à-dire ne plus être pichoté que ça par des gens qui s'habillent et qui vivent différemment, mais en même temps une nouvelle acuité visuelle, être capable de plus voir la différence entre un voile et un voile, parce que il y a plein de voiles différentes. En plus, si vous discutez avec les gens qui portent le voile, vous aurez des comportements très différents qui les portent souvent pour des raisons très différentes les unes des autres. Et c'est à la fois une certaine indifférence et une capacité à plus voir ce qu'il peut y avoir de diversité dans ce qui nous apparaît immédiatement comme quelque chose de massif. Sans doute, ça va prendre du temps d'inventer une nouvelle forme d'inclusion alimentaire. On sortait là d'un stage visite sur la question de l'obscurantisme et on discutait de comment des outils pour favoriser au quotidien le vivre ensemble religieux. Et donc on disait voilà, comment on partage la table quand on a quand on fait des amis, on connaît en général des uns ou des autres, mais ça va attendre que ça, et vous gérez le fait que il y en a qui mangent ci, il y en a qui mangent pas ça, etc. Donc il faut inventer des nouveaux modes de fonctionnement par rapport à ça. Et puis sans doute inventer peut-être aussi des nouveaux rituels et des nouveaux calendriers communs. J'ai réuni beaucoup les Américains, c'est ce qu'on appelle la religion civile. Donc tout ce qu'on peut célébrer ensemble, une difficulté, c'est qu'en France, tu sais, correspond aux fêtes américaines, dans le calendrier français, c'est quand même beaucoup des fêtes chrétiennes, en partie des fêtes catholiques. Donc comment on invente des fêtes, des moments de rencontre où tout le monde se sent réellement accueilli, où on peut rencontrer tout le monde. Je pense que ça va prendre du temps aussi à ce qu'on accepte que la culture commune fasse place à une ou à des cultures minoritaires. Ça va prendre du temps pour que les cultures minoritaires comprennent le fait que dans des formes peut-être moins expressives, ne les condamnent pas forcément à disparaître. Je reviendrai un peu là-dessus. Donc ça prend du temps aussi à ce que les problèmes internationaux qui ont des conséquences sur la situation en France se résolvent. Voilà, il se passe aussi dans la situation moyen-orientale, mais là c'est même plus la question d'Israël-Palestine, c'est la question du Irak, la question de la Syrie, etc. Ça a des conséquences sur ce qui se passe en France. Ça va prendre du temps aussi à résoudre les problèmes de chômage, de discrimination, qui produisent en partie certains dans le rejet de l'autre. Donc, il y a cette question de prendre du temps. Il me semble que la tolérance archaïque dont je parlais a justement à voir avec cette nécessité de prendre du temps. Michael Lazar rappelle que l'idée de tolérance, elle est issue des guerres de religion, et puis qu'à un moment, l'équipement gagne les adversaires, dit-il, et naît alors à cette période-là une conception qui est beaucoup plus rugueuse que la nôtre de la tolérance. La tolérance, au sortir des guerres de religion, c'était une endurance face à des choix dont on se disait haut et fort qu'ils ne devaient pas être. Ce n'était pas par gentillesse qu'on ne les interdisait pas, mais parce que les interdire aurait causé plus de désagréments que de les laisser faire. On était également persuadé que la pratique adverse, celle qu'on ne supporte pas, ne finirait bien par disparaître, puisque c'était une erreur. Il me semble que cette conception un peu archaïque, donc il y a un avantage, c'est déjà de prendre en compte les sentiments réels de beaucoup de contemporains. Elle prend en charge la réaction initiale qu'on peut avoir face à certaines différences qu'on peut rencontrer. Et ça,
cette tolérance n'implique pas de considérer cette différence qu'on rencontre comme acceptable, juste de dire ça serait peut-être plus de désagréments à l'interdire qu'au contraire. Michel Valger dit que cette situation où chacun est tenu de tolérer tous les autres n'est pas une tâche facile, sans importance. Elle est sous-estimée parce que elle est finalement qu'un minimum à l'égard des autres. Or même les formes les moins généreuses sont bonnes et rares, et donc doivent être appréciées. Elle est la conduite même de la vie parce que son contraire mène souvent à la mort. Elle est la condition même de la vie collective. La coexistence pacifique est toujours une bonne chose. Surtout comme cette logique nous invite à redonner de la place au temps dans notre vivre ensemble, c'est l'endurance qui nous oblige à accepter les gens qui nous disent que dans le métro, que les femmes d'entrant au port des avis qui nous choquent, mais plus une faiblesse, mais finalement une vertu. Autre élément sur en quoi cette tolérance nous laisse du temps, et en fait c'est important, la raison républicaine française est sans doute persuadée sur le point de vue supérieur qui finira par triompher pour tous et partout. Puisqu'elle est persuadée qu'elle a le temps pour elle, autant justement jouer ce temps-là pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. Alors peut-être que c'est une illusion, mais un peu comme c'est une illusion nécessaire au 16e siècle de croire que la diversité religieuse, la foi protestante en l'occurrence, ne serait que ce passagère. Et donner du crédit à cette illusion, à cette tolérance faite dans l'amour des amis, est-ce que ça ne nous permet pas de calmer le jeu et d'entrer dans la question de fond qui est qu'est-ce qui ne va pas plus globalement dans la société française pour qu'on ait besoin d'une tolérance, de sortie de guerre civile, et surtout comment faisons-nous pour résoudre tous les problèmes évoqués qui nous permettraient d'aller vraiment plus loin dans la rencontre entre les uns et les autres. Elle est du temps pour réintroduire progressivement de l'amour des amis, puis de l'amour tout court dans la façon de se considérer les uns les autres dans nos expressions publiques. J'ai terminé c'est cette tolérance archaïque. Maintenant, comment est-ce qu'on la dit? Comment est-ce que on essaie de la servir? Parce que en elle-même, elle est absolument insuffisante. C'est-à-dire que c'est quand même une tolérance extrêmement pauvre. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez du souci d'interreligieux comme moi, de la rencontre de l'autre, etc. Et que l'objectif, c'est bien de réussir à utiliser cette tolérance minimale pour réussir à sortir de cette tolérance minimale et pour aller vers quelque chose de plus dans la rencontre. Je crois que donc on a besoin dans la situation actuelle, c'est de réussir à ce qu'on soit référent parfait qui ne veut plus éliminer l'autre. Et qu'on arrive dans cette tolérance de base, à avoir une nouvelle éthique de l'échange qui permet de recréer un échange pour aller vers une tolérance plus ouverte. Le premier élément, c'est je le reprends à une universitaire américaine d'origine pakistanaise qui s'appelle Saba Mahmoud et c'est l'exigence de tolérer les différences authentiques. Alors Saba Mahmoud écrit: il faut inculquer une tolérance et un respect mutuel pour les différences authentiques et non seulement pour les différences anodines, sans conséquence et qui ne nous affectent pas. Il est facile d'être tolérant envers quelque chose qui ne nous affecte pas. Et il faut réussir à être tolérant envers quelque chose qui nous affecte. Comment se battre pour rendre possible une communauté de respect mutuel quand il existe de véritables différences de manière de croire, de penser et de vivre? Je l'écris: oui, des musulmans sont profondément offensés par la caricature du prophète. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour les interdire. Mais il faut comprendre pourquoi et comment ils sont insultés pour parvenir à un respect mutuel. Donc là, il y a une invitation à comprendre
quelle est réellement la différence sur la caricature, pas seulement dire on a le droit de les publier, mais réellement comprendre qu'est-ce qui fait le choc pour l'autre dans une caricature. C'est ce que j'ai tout à l'heure sur le flas. Voilà, peut-être que vous êtes choqué par la présence de femmes et de foulards dans l'espace public, mais est-ce que quel est réellement le sens de cette différence-là et qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire. Pour cela, ça veut dire que mon deuxième point, qu'il faut créer un niveau d'échange réel, un niveau d'échange important et un niveau d'échange qui soit un niveau de sens qui n'hésite pas à dire les choses. Cela induit d'être un espace d'échange pour critiquer, par exemple, les caricatures, sans être assimilé à un penseur, ou un terroriste, ou à quelqu'un qui ne respecterait pas le pacte national, ou pas un vrai français, et inversement, un espace pour critiquer telle ou telle partie du slam, sans être forcément assimilé à un raciste. Qu'il soit donc possible pour A, de s'exprimer, de B, de dire son désaccord avec cette expression, et à A, de répondre à cette critique. Il me semble que, par exemple, une des difficultés dans le débat sur les caricatures, c'est que l'auteur A de l'expression initiale ne répond pas réellement de la critique qu'il lui est fait sur cette expression initiale. Quand les dessinateurs de Charlie Hebdo répondent aux critiques qu'on fait sur leur caricature en disant « on sait que tout le monde n'est pas seulement vous » ou « c'est de l'humour », c'est pas réellement une réponse. Ça s'exprime dans le sous-titre du journal, qui est journal irresponsable. C'est faux légalement. Le directeur du CSN, par exemple, est responsable devant la loi. Mais ça peut traduire, malheureusement, cette idée, être responsable, c'est répondre. Et là, je n'ai pas de réponse au sens de ces dessins. Et je dis ça parce que c'est un débat qui existe au sein de la communauté des dessinateurs de presse. Entre les filles de faire les autres, d'autres destinateurs de texte qui ne justifient pas plus la censure, etc., mais qui disent, vous devez au moins répondre. Inversement, l'énervement face aux pratiques visibles de l'islam ne se déroule jamais dans un espace où des musulmans pourraient répondre à ces énervements. J'ai vu, par exemple, organiser un débat, peut-être que vous avez vu, je crois pas, entre Éric Zemmour et puis un intervenant musulman, où il y aurait vraiment une réponse. Le seul cas dans ce cas-là, c'est un peu de ce type-là, c'est le débat des États-Unis, entre Tariq Ramadan et Karim Chouret, certes, ça n'a pas donné grand-chose, mais au moins, les arguments ont été échangés en présence. Alors, il semble qu'il faut au contraire accentuer ces échanges, du chacun du franchement suivant, qu'il faut être capable d'accepter un haut niveau de polémique. Finalement, ce qui s'est passé pendant des siècles entre les protestants et les catholiques, on a eu des guerres religieuses entre les catholiques et les protestants, il y a des siècles de polémiques, de conflits, etc. Et on peut aboutir à l'œcuménisme, etc. Ça veut bien dire que c'est faut bien de l'échange et non des monologues croisés. Et c'est dans cet échange, il y a assez d'honnêteté pour chercher à convaincre son interlocuteur dans n'importe quel débat, mais aussi être suffisamment à l'écoute, être suffisamment capable de reconnaître les arguments de l'autre quand ils sont justes, et même faire l'effort de le comprendre. Un haut niveau de polémique, mais en même temps, un haut niveau d'honnêteté dans l'écoute de l'autre, ça veut dire qu'on doit être... doit être construit des phases de confiance où on ose se dire qu'on fait des accords, mais où on est aussi suffisamment honnête pour réellement entendre ce que dit l'autre. Alors cet espace de confiance, il semble que c'est un des éléments importants du débat. Je reviens à cet exemple des idées de tolérance et de la tolérance à partir des guerres de religion. Dans les idées de tolérance comme type évidemment, il y avait une action de place de sûreté, de place forte. Alors c'était quoi? C'est l'endroit où les minorités protestantes pouvaient se mettre en sûreté s'il avait pris aux catholiques d'avoir envie d'un nouveau les massacrer. Donc On a plus de questions sur les plages d'eau surcée aujourd'hui, bien sûr, mais cette image-là, c'est pour dire que je pense qu'il y a besoin d'une, de quelque chose qui joue ce rôle symbolique de plage de surcée. Parce que pour que la polémique puisse produire ces effets de transformation dans le temps, il y a une condition de départ, c'est qu'aucune des parties prenantes n'ait l'impression que l'autre veut le faire disparaître, parce que soit c'est fondamentalement illégitime. Que le débat, il n'a pas pour fin le fait qu'il y a des gens qui vont disparaître et d'autres qui vont rester. Que le débat, il est vraiment le débat important pour lui-même. Or, j'y reviendrai en conclusion, beaucoup, je peux entendre beaucoup de musulmans à Saint-Denis, à Genève, etc., c'est qu'ils se sentent toujours mis dans une situation illégitime, qu'ils sont dans une place qui ne leur serait jamais assurée. C'est une angoisse qui est d'ailleurs en vis-à-vis. J'entends des amis musulmans qui disent qu'ils veulent faire disparaître l'islam. Les lois sur la loi sur le voile de 2004, la loi sur la burqa, la polémique sur les repas, etc. Ça serait, eux le ressentent comme une volonté de faire disparaître l'islam. Inversement, on entend aussi des gens qui disent on n'est plus chez nous, on ne va plus être chez nous, de part de la personne inquiète de la présence de l'islam. Et en fait, on a un phénomène en vis-à-vis qui me semble assez mortifère, c'est que chacun se replie, et se replie de manière défensive à rendre plus visible son identité, qui accentue encore l'inquiétude chez l'autre, et donc on a un cercle vicieux. Et donc, il me semble qu'il faut donner cette sûreté, et que c'est vraiment le rôle de la République d'être cette place de sûreté. C'est-à-dire que cette République soit capable d'assurer à chacun des groupes qu'il a sa place en France et qu'il est protégé par elle, c'est-à-dire être capable de dire, comme Manuel Valls l'a dit devant le supermarché Hypercacher, la France ne fait pas la France quand on est juge de France, mais ça serait d'autant plus, ça serait peut-être plus convaincant quand il y a des attaques contre la communauté juive, il y a des manifestations publiques. Enfin, je pense que maintenant on réalise combien c'est un problème qu'il n'y ait pas eu de réaction collective ou populaire quand il y a eu les attaques de Mohamed Merah à Toulouse. Et ça, c'est une manière de dire vous avez votre place, et que cette même chose doit être dite aux musulmans, qu'ils puissent ne plus avoir le sentiment qu'on veut. Que ce n'est pas la place en France qui a une volonté de les éliminer, et inversement, être capable de rassurer les gens en leur disant « mais vous avez d'autres personnes, celles qui disent « on n'est plus chez nous » et « nos modes de vie sont en danger », elles les rassurent en disant « mais vous avez, tout le monde a le droit de continuer à vivre selon son mode de vie, et bien sûr, que cela doit s'assurer aussi par la République. Je crois que c'est aussi ça qui permettra que les changements, ils soient faits par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut d'autant plus retravailler son identité. On peut d'autant plus, de manière, avoir une identité moins visible et moins affirmative quand on n'a pas l'impression que c'est ça le moyen de la défendre. Et que donc, si on est plus assuré de sa place, on peut plus facilement travailler son identité et la changer. Et que les changements sont plus durables et plus profonds quand ils sont décidés par les gens eux-mêmes. Voilà. Donc je conclurai en me demandant s'il ne faut pas justement réhabiliter ce que j'ai dit, ce niveau de tolérance, et même de tolérance basique, pour pouvoir être à la fois dans et la polémique et la compréhension. Est-ce que pour retirer du commun, il ne faudrait pas d'abord accepter qu'il y a du différent, et que notre commun, celui qui va nous faire vivre ensemble, qui fera pas forcément la disparition de la différence, ni la reproduction du commun d'avant exactement, mais quelque chose d'autre qu'on va construire ensemble. Pour voir évoluer l'autre, Est-ce qu'il ne faut pas accepter de ne pas utiliser tous les pouvoirs qui sont dans nos mains pour que l'autre n'ait pas puisse avoir un sentiment de sûreté dans son existence et que ce soit lui-même qui puisse aussi modifier ses comportements. Voilà, quand on a ça devant nous et que on aura bien besoin de l'injonction à aimer nos ennemis dans ce travail-là, pour que ça devienne effectivement justement des amis, et que c'est d'avoir de l'amour qui nous permet d'avancer sur ce chemin-là. Je pense qu'on aura besoin de se rappeler la phrase que j'ai au début, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Valeur au petit valeur, qui fait la valeur qui permet d'asseoir la valeur de liberté. Voilà. Je vous remercie.